Vous écoutez le jeu vidéo. Jeudi 25 juin est sorti Star Fox, un jeu inattendu car un nouveau remake de Star Fox 64, initialement publié il y a 29 ans et retapé sur 3DS en 2011. Suivant cette logique, cela signifie qu'on devrait avoir un nouveau remake en 2041, mais d'ici là, revenons donc en 2026 et à la version développée par Velan Studios sur Switch 2, dont un exemplaire de test m'a été envoyé par l'éditeur. Alors, si vous n'êtes pas familier de ce que c'est que Star Fox, pour placer les bases rapidement, il s'agit d'un shoot'em up dans lequel on avance en 3D sur rail en direction de la profondeur de l'écran et on canarde des vagues d'ennemis qui arrivent devant, sur le côté et derrière soi, avec également les trois amis de l'escadron Star Fox qu'il faut venir sauver de manière ponctuelle. La progression se passe à la manière d'un roguelike, c'est-à-dire que la première et la dernière mission sont, sauf exception, toujours les mêmes, et vous allez ensuite choisir différents embranchements. Et quand je dis choisir, c'est un terme qui est peut-être un petit peu galvaudé, puisque dans certains cas, le choix sera explicite, mais dans la majorité des cas, le choix sera déguisé derrière une condition qui est cachée derrière le code du jeu. Reste que dans cette version 2026, une fois que vous avez fait la mission une première fois, le jeu va finir par vous donner des indices sur comment débloquer les différents embranchements. Bref, cela permet sur les 7 missions qui se déroulent l'une après l'autre, en vérité d'en avoir d'autres et d'avoir plein de manières différentes de compléter, de terminer Star Fox, ou plutôt un run de Star Fox. Derrière, il y a un mode challenge qui permet, et qui est nouveau dans cette version Switch 2, et qui vous permet de vous défier sur des missions que vous connaissez déjà, si vous avez déjà terminé le jeu onque fois. Un mode challenge d'ailleurs, qui n'est pas super bien conçu à mon avis, puisque au lieu de vous faire commencer à un point spécifique de la mission, et de terminer la mission au moment où vous atteignez le critère du challenge, l'idée est plutôt de vous donner une liste de courses, une liste de devoirs pour la mission et de vous la faire commencer tout au début, de vous la faire terminer tout à la fin, à chaque fois, ce qui va ajouter au caractère répétitif et redondant qui est déjà propre au fait de faire plusieurs parties de Star Fox à la suite. Donc ça, c'est dommage dans sa conception et vraiment ça ne va accrocher que les fans les plus hardcore de Star Fox 64 à mon avis. Derrière également et nouveau dans cette nouvelle version, un mode multijoueur avec trois modes de jeu où on retrouve des modes de jeu qui sont finalement assez proches de ce qu'on a dans les first person shooter et les third person shooter, par exemple du Capture the Flag ou par exemple de la capture de zone, c'est-à-dire du King of the Hill. Et ça, c'est rigolo. C'est vrai, mais le fait qu'il n'y ait qu'une seule carte par mode de jeu rend la chose immédiatement répétitive. Et c'est fort dommage, parce qu'il y aurait pu avoir plus de potentiel derrière, y compris avec le fait qu'on peut jouer en ligne contre d'autres joueurs, jusqu'à 4 contre 4 à chaque fois. C'est donc dommage, effectivement, d'avoir aussi peu de contenu derrière. Est-ce que ce sera patché avec de nouvelles cartes? Ça n'est pas interdit. Derrière, rien n'a été annoncé ou teasé en ce sens. Et la décision d'achat autour d'un jeu ne devrait bien sûr être faite qu'à partir des seules choses que l'on sait à partir du jeu en question. Et donc, si le multijoueur vous intéresse ou serait un critère principal pour vous, je me permets de ne pas vous recommander Star Fox tout court, directement. Ça va plus vite, je pense. Par contre, si vous aimez le mode solo, si vous êtes intéressé par ou si vous êtes un fan de la première heure et que vous adorez le concept d'un bon remake de Star Fox, eh bien, bonne nouvelle, Star Fox 64 a été bon remaké par le studio de Mario Kart Live, ce qui est une surprise, mais une surprise bienvenue. Studio d'ailleurs qui a également bossé, qui a aidé au développement d'Astrobot sur PlayStation 5 il y a quelques années. Donc comme quoi ils ont aussi travaillé sur des jeux avec un haut crédit en termes de qualité et en termes de reconnaissance critique ces dernières années. Velan Studios donc. De ce qui est de ce jeu, il est intéressant aussi, et je me permets une petite parenthèse, parce qu'il est à cheval sur les différences, les frontières entre ce qu'on considère comme étant un remaster, un remake et une suite, et je le dis pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il s'agit à proprement parler d'un, on va dire, d'un remaster plus ou d'un remake modeste. Ça dépend exactement comment est-ce qu'on considère ce genre de définition. Parce que certes, il s'agit pour part du jeu original de la version Nintendo 64, avec quand même un tout petit peu de modification dans le placement de certaines choses, notamment de certains bâtiments ou de certains ennemis par rapport à la version 64, même si majoritairement c'est très fidèle. Il y a quand même quelques petits ajustements, au-delà des ajustements, on va dire, de confort en termes de système de jeu, dont notamment l'ajout de un mode plus facile, l'ajout d'un mode expert pour les gens que ça intéresse, etc. etc. Et en même temps, comment dire, on est également proche du remake, proche du remaster à la fois, en même temps on n'est pas loin non plus de la suite si on considère que Star Fox Zero n'est pas véritablement une suite, mais un remake, puisque philosophiquement très proche également de Star Fox 64. Donc considérer qu'est-ce qui est un remake, un remaster ou une suite dans l'univers Star Fox depuis Star Fox 64 est devenu extrêmement compliqué. Je crois qu'on peut assez facilement différencier les jeux GameCube et DS qui ont fait part de beaucoup d'expérimentations et qui sont très proches de la suite. Mais au final, sur ce spectre-là, la manière dont on a de les différencier, c'est souvent à quel point est-ce que c'est proche de quelque chose qui est déjà sorti ou à quel point est-ce que c'est quelque chose qui est particulièrement nouveau et inédit, mais qui doit quand même conserver un certain niveau d'habitude puisqu'on reste au sein d'une même licence. C'est tout le problème des suites dans le jeu vidéo en général, le fait de ne pas s'aliéner le public qui a aimé quelque chose à la base. Et donc, d'une certaine manière, Star Fox 2026 restera, je pense, pour longtemps, un cas d'étude fascinant sur qu'est-ce qui appartient à laquelle de ces trois catégories. En termes d'accessibilité, rapidement, à titre personnel et d'un point de vue d'accessibilité moteur, je déplore l'absence d'un bouton turbo qui est un problème pour ce genre de jeu, typiquement dans les combats contre les boss ou dans certains autres cas de figure plus occasionnellement, parce que ça veut dire massacrer, en ce qui me concerne avec le pied, le bouton qui sert à tirer, et ça c'est fort dommage. Problème également léger et d'accessibilité pour tout le monde, le fait que, contrairement à la version Nintendo 64, les indicateurs visuels au moment où touche un ennemi qui est vulnérable est beaucoup moins présent. Ça ne clignote plus comme en 97. Ce qui signifie que typiquement quand on fait face à certains boss, il faut faire très attention à la barre de vie de l'ennemi pour savoir qu'on est véritablement en train de lui faire du mal et qu'on est véritablement en train de faire quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ces jeux-là dépendent beaucoup de réactions au poil de cheveux près, un timing très serré et également de concentrer son attention sur une part très spécifique de l'écran, puisqu'il faut à la fois gérer son réticule de visée et en même temps le positionnement du véhicule qu'on est en train de contrôler. Donc, c'est l'aspect qui est un petit peu dommage. Derrière, c'est tout de même un jeu de grande qualité, je tiens à le dire, notamment d'un point de vue visuel. Ça a pu être observé par Point de Monde, et personnellement, je soulignerai un point qui m'est cher, qui est tout ce qui concerne les animations, et notamment les animations au moment de récupérer un power-up, qui sont extrêmement chiadées, et également la bande-son qui a été enregistrée chez Abbey Road Studios avec un orchestre, et qui a un rendu proche du Philharmonique, qui est excellent pour la bande-son de Star Fox, qui elle-même est déjà très proche de celle de Star Wars, car c'est évidemment une belle référence à Star Wars, mais avec des animaux. Ça n'a échappé à personne depuis les années 90 déjà. Et donc, nous y sommes encore plus avec cette nouvelle bande son. Quant aux cinématiques, beaucoup a été dit sur le sujet, y compris au nouveau design des différents personnages. Et je dois dire que peu manchot en vérité, si ce n'est que je suis heureux qu'elle soit skippable relativement facilement, ce qui est également une bonne nouvelle pour tous les speedrunners et les speedrunneuses dans l'assistance. Voilà, dans l'ensemble, c'est un bon remaster slash remake. Ça reste un jeu vendu 50 voire 60 balles si vous le prenez en dématérialisé ou en physique. Donc, quand même relativement cher pour un jeu de 97. C'est un jeu qui vient rejoindre un catalogue qui est déjà rempli d'adaptations d'anciens jeux. On va avoir Zelda Ocarina of Time à la fin de l'année et également avec d'autres jeux Nintendo Switch 2 édition qui sont donc des jeux Nintendo Switch qui ont été ramenés sur Switch 2 dans les 12 derniers mois, ce qui fait que le catalogue de cette console contient quand même beaucoup de redites au-delà de la rétrocompatibilité vers la Switch 1, et tout ça peint un tableau qui est à l'image du reste de l'industrie du jeu vidéo, un bon remaster slash remake, mais un jeu tout de même en demi-teinte par sa simple existence, parce qu'il faut bien ça pour des temps de développement un peu plus modestes et un peu plus réalistes. We'll be right back. Une chose avant de nous quitter. Le 24 juin, Rockstar a annoncé que l'édition physique de GTA 6 ne contiendra pas de disque. Une semaine plus tard, le 1er juillet, Sony a communiqué son intention de ne plus fabriquer de disques PlayStation pour les jeux qui sortiront à partir du 1er janvier 2028. Cette décision, si elle venait à être maintenue malgré la colère qu'elle a déclenchée, porterait un coup violent à la préservation légale des jeux et au marché de l'occasion. Pire encore, elle rendrait caduque le concept de prêt, tel que le facilitent nombre de ludothèques, médiathèques et bibliothèques à travers le monde. Alors que la prochaine génération de consoles pourrait voir son prix minimum dépasser le millier d'euros, cette politique accentuerait l'inégalité d'accès aux jeux vidéo en fonction du revenu. C'est tout pour ce premier épisode Flash. N'hésitez pas à vous abonner, à vous écouter le jeu vidéo sur la plateforme de votre choix. On se retrouve à la rentrée pour un épisode complet et dans quelques jours / semaines pour un nouveau Flash en compagnie de Grégory Enko. Prenez soin de vous et à bientôt.